Livre des nombres. Étude sur le chapitre 7. Voici la plus longue division de tout le livre des nombres. Elle contient un exposé détaillé des noms des 12 princes de la congrégation et de leurs offrandes respectives à l'occasion de l'érection du tabernacle. Et il arriva le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle et qu'il l'eut oint et sanctifié avec tous les ustensiles, et l'autel avec tous ses ustensiles, et qu'il les eut oints sanctifiés, que les princes d'Israël, chefs de leur maison de père, princes des tribus qui avaient été préposés sur ceux qui furent dénombrés, présentèrent leur offrande. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chariots couverts et 12 bœufs, un chariot pour 2 princes, et un bœuf pour un prince, et ils les présentèrent devant le tabernacle. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends d'eux ces choses, et elles seront employées au service de la tente d'assignation, et tu les donneras aux Lévites, et chacun en proportion de son service. » Et Moïse prit les chariots et les bœufs, et les donna aux Lévites. Il donna 2 chariots et 4 bœufs aux fils de Guershon, en proportion de leur service, et il donna 4 chariots et 8 bœufs aux fils de Merari, en proportion de leur service, sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Et il n'en donna pas aux fils de Kehath, car le service du lieu saint leur appartenait, ils portaient sur l'épaule. Versets 1 à 9. Nous avons fait observer dans notre étude sur les chapitres 3 et 4 que les fils de Kehath avaient le privilège de porter tout ce qui était de le plus précieux parmi les instruments et les meubles du sanctuaire. Voilà pourquoi ils ne recevaient aucune offrande des chefs. C'était leur service élevé et saint de porter sur leurs épaules et de ne pas employer des chariots et des bœufs. Puis nous examinerons attentivement les objets qui étaient remis à la charge et à la garde des Kehathites, plus nous verrons qu'ils présentent en type les manifestations les plus profondes et les plus complètes de Dieu en Christ. Les Guershonites et les Mérarites, au contraire, avaient affaire avec des choses qui étaient plus extérieures. Leur ouvrage était plus pénible et plus hasardeux, et par conséquent, ils étaient pourvus des ressources nécessaires que la libéralité des principaux mettait à leur disposition. Le Kehathite n'avait pas besoin du secours d'un chariot ou d'un bœuf dans son service supérieur. C'est son épaule qui devait porter le précieux fardeau mystique. Verset 10-11. Et les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où il fut oint. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel, et l'Éternel dit à Moïse, « Ils présenteront un prince un jour et un prince l'autre jour leur offrande pour la dédicace de l'autel. » Un lecteur peu spirituel, en parcourant des yeux ce chapitre particulièrement long, serait peut-être disposé à demander pourquoi, dans un livre inspiré, ce qui pouvait être dit en 12 lignes occupe tant de place. Si un homme avait rendu compte des transactions de ces 12 jours, il les aurait, selon toute probabilité, résumées très brièvement en un seul énoncé, et nous aurait dit que les 12 principaux nous offrirent chacun telle et telle chose. Mais cela n'aurait point du tout convenu à la pensée divine. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Il voulait, lui, une liste complète et des plus détaillées des principaux, donnant le nom de chacun d'eux ainsi que celui de la tribu qu'il représentait et indiquant les offrandes qu'il avait apportées au sanctuaire de Dieu. De là vient ce long chapitre de 89 versets. Chaque nom y brille dans son caractère distinctif. Chaque offrande est minutieusement décrite et dûment estimée. Les noms et les offrandes ne sont pas confusément mêlés. Cela ne répondrait pas au caractère de notre Dieu et il ne saurait agir ou parler que selon son essence dans tout ce qu'il fait ou dit. L'homme peut passer rapidement ou avec insouciance sur les dons et les offrandes. Mais Dieu ne le peut, ne le fait et ne le veut jamais. Il se plaît à rappeler chaque petit service, chaque petit don affectueux. Il n'oublie jamais les plus petites choses, et non seulement il ne les oublie pas lui-même, mais il prend un soin particulier à ce qu'un nombre infini d'individus puissent les connaître. Combien peu ces 12 principaux s'imaginaient que leurs offrandes et leurs noms seraient transmis d'âge en âge pour être lus par des générations sans nombre. Cependant, il en fut ainsi, car Dieu le voulait ainsi. Il entrera dans ce qui pourrait nous sembler un détail fatigant, même dans ce que l'homme pourrait appeler de la tautologie, plutôt que d'omettre le nom d'un seul de ses serviteurs ou une seule particularité de leur œuvre. Ainsi, dans le chapitre que nous avons sous les yeux, Chacun des principaux avait son jour fixé pour présenter son offrande et la place à signer dans l'éternelle page inspirée où la liste la plus complète de ses dons est inscrite par le Saint-Esprit. C'est vraiment divin. Et ne pouvons-nous pas dire que ce septième chapitre des Nombres est une page spécimen du livre de l'éternité dans lequel le doigt de Dieu a gravé les noms de ses serviteurs et la liste de leurs œuvres? Nous le croyons. Et si le lecteur veut ouvrir le chapitre 23 du second livre de Samuel et le 16e de l'épître aux Romains, il trouvera deux pages analogues. Dans la première, nous avons les noms et les faits des hommes illustres de David. Dans la seconde, les noms et les actes des amis de Paul à Rome. Dans les deux chapitres, nous en sommes persuadés, une illustration de ce qui est vrai de tous les saints de Dieu et des serviteurs de Christ, du premier au dernier. Chacun a sa place spéciale dans le rôle, chacun a sa place dans le cœur du Maître, et tous seront manifestés bientôt. Parmi les vaillants hommes de David, nous avons les trois premiers, les trois et les trente. Nul des trente n'obtint jamais une place parmi les trois, et nul des trois n'égala les trois premiers. Non seulement chaque nom, mais chaque acte est fidèlement inscrit, et ce qui constitue l'acte et la manière dont il est accompli nous sont rapportés de la manière la plus précise. Nous avons le nom de l'homme, ce qu'il fit et comment il le fit. Tout est enregistré avec une exactitude et un soin particulier par la plume infaillible et impartiale du Saint-Esprit. Il en est de même encore quand nous nous arrêtons à cette remarquable page du 16e aux Romains. Nous avons là tout ce qui concerne Phébé, ce qu'elle était, ce qu'elle faisait et quelle était la base solide sur laquelle reposaient ses droits à la sympathie et à l'assistance de l'Assemblée à Rome. Puis viennent Prisca et Aquilas, la femme est nommée la première. Nous voyons comment ils avaient hasardé leur propre coup pour la vie de l'apôtre et avaient mérité ses remerciements et ceux des assemblées des nations. Immédiatement après, nous avons le bien-aimé Épaïnette et Marie qui non seulement a travaillé, mais a beaucoup travaillé pour l'apôtre. Ce n'aurait pas été parler selon la pensée de l'Esprit ou le cœur de Christ que de dire simplement qu'Épaïnette était aimée ou que Marie avait travaillé. Non, ces petits mots « bien » et « beaucoup » étaient nécessaires pour exprimer l'état exact de chacun. Mais nous ne devons pas nous étendre là-dessus et nous appellerons seulement l'attention du lecteur sur le verset 12. Pourquoi l'écrivain inspiré ne place-t-il pas Tryphène, Tryphose et Persis, la bien-aimée, sous un seul chef? Pourquoi ne leur assigne-t-il pas une seule et même position? La raison en est extrêmement belle. C'est parce qu'ils ne pouvaient dire que ceci des deux premières qu'elles avaient travaillé dans le Seigneur, tandis qu'il était juste d'ajouter pour la dernière qu'elle avait beaucoup travaillé dans le Seigneur. Est-il rien de plus distinctif? C'est encore une fois les trois premiers et les trente. Ce n'est pas un mélange confus de noms et de services, point de précipitation, point d'inexactitude. On nous dit ce que chacun était et ce qu'il faisait. Chacun a sa place et reçoit sa propre récompense de louange. Et ceci, qu'on le remarque, est une page spécimen du livre de l'éternité. Que c'est solennel, et toutefois que c'est encourageant. Il n'est pas un seul acte de service que nous rendons à notre Seigneur qui ne soit couché par écrit dans son livre. Et non seulement la substance de l'acte, mais aussi la manière dont il est fait, car Dieu apprécie la manière aussi bien que nous. Il aime celui qui donne joyeusement et celui qui travaille de bon cœur, parce que c'est précisément ainsi qu'il agit lui-même. Il était agréable à son cœur de voir l'élan de libéralité des représentants des 12 tribus se répandre autour de son sanctuaire. Il était agréable à son cœur de signaler les actes des vaillants hommes de David au jour de sa réjection et de relever le dévouement des Prisca, des Aquilas et des Phébé dans une époque plus récente. Nous pouvons ajouter qu'il est agréable à son cœur, dans ses jours de tiédeur et d'inerte profession, de voir ça et là un cœur qui aime vraiment Christ et un ouvrier dévoué dans sa vigne. Que l'Esprit de Dieu excite nos cœurs à un plus entier dévouement. Que l'amour de Christ nous étreigne de plus en plus, de telle sorte que nous vivions non pas pour nous-mêmes, mais pour lui, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos odieux péchés dans son sang précieux et nous a fait tout ce que nous sommes et ce que nous avons l'espérance d'être bientôt.